Seigneur. Merci de nous avoir invités, merci de nous accueillir et merci au Seigneur pour ce moment merveilleux qui nous permet de passer ensemble. Je vous apporte les salutations de notre Église, de notre Assemblée à Villeneuve-d'Ascq. Ils savent que nous sommes là, que nous sommes ici et depuis nous leur avons demandé de prier pour vous, de prier pour nous aussi et de demander au Seigneur de nous assister, de nous conduire pendant ce temps ensemble. Je vais, c'est vrai, donner le témoignage de ce que Dieu fait en nous et avec nous. Mais je crois que je me permettrai aussi de parler des choses que le Seigneur n'a pas encore faites, que nous lui avons demandées et dont nous attendons la réponse. Et j'étais touché tout à l'heure là par le mot que Jean-Luc venait de dire. Peut-être hein, tu as parlé de la pudeur. Il nous arrive parfois aussi de manquer beaucoup de bénédictions seulement au nom de la pudeur. Parfois nous sommes... Il y a des choses que nous ne voulons pas faire alors que ça ne fait pas honte à Dieu. Mais nous, ça nous fait honte et je crois que ça nous retarde ou des fois ça nous empêche de rentrer dans notre destinée. Des fois aussi, je crois que ça retarde l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a la pudeur, il y a parfois aussi la peur. Il y a souvent aussi trop de respect de nos traditions et de nos habitudes qui parfois nous empêchent aussi. C'est ainsi que dans notre témoignage, dans mon témoignage, je dirais peut-être certaines choses auxquelles vous n'êtes pas habitués. Nous le faisons peut-être parce que nous sommes arrivés à dépasser certaines choses. On se dit, bon, Dieu sera-t-il content, sera-t-il pas content? Nous savons que dans nos coutumes, c'est pas bon. Mais est-ce que pour Dieu aussi, ce n'est pas bon? Et pourtant, sa parole nous demande de le faire. Allons-y quand même, on ne sait jamais. Mais je vous propose de commencer le témoignage par quelques textes bibliques sur lesquels nous nous appuyons souvent pour faire certaines choses que nous faisons. Donc, je préfère que nous les lisions avant. Le premier texte que je vous propose, c'est dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4. Verset 16. Hébreux chapitre 4. Verset 16, il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui. Là, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de la prière, parce que c'est de cela qu'il est question ici, nous nous engageons dans la prière avec, comme des petits enfants, avec simplicité. Lorsque j'observe cet enfant qui court, il n'a honte de rien. Et aussi, il n'a peur de rien. Il est libre. Comme la parole de Dieu nous appelle d'être, de nous sentir libres dans la présence du Seigneur. Et lorsque moi je peux lire ici, afin d'obtenir, hein, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Je me rappelle la parole de l'apôtre Paul qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. C'est-à-dire que tous les besoins, même certains besoins qui peuvent me faire honte, pour lesquels moi je peux avoir la pudeur. Mais lorsque la parole de Dieu me dit tous les besoins, ça veut dire je dirai à Dieu tous les besoins. Je me sentirai libre de lui dire tous mes besoins. Un autre texte que je vous propose de lire ici, c'est au verset Actes des Apôtres, oui. Actes des Apôtres, le chapitre 31. Non, chapitre 4 plutôt. Excusez-moi, chapitre 31 n'existe pas. Actes des Apôtres, chapitre 4, oui. Oui, au chapitre 4, encore une fois, nous allons lire l'histoire que vous connaissez, mais seulement ce verset, le verset. Au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bon, je vais m'arrêter sur ces textes et sur d'autres qui vont suivre pour commencer à relever la notion plurielle de la prière. Nous savons prier seuls, nous pouvons prier en petit groupe d'intercession, mais mon propos va tourner autour de l'importance de la prière de l'Église, l'importance de la prière communautaire. Et vous savez qu'au sujet de la prière, il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Vous en avez déjà lu beaucoup, j'en ai lu aussi beaucoup. Nous avons assisté à des séminaires sur la prière, sur l'intercession. Mais l'aspect de la prière que moi je vais aborder, et même à travers les témoignages de ce que nous faisons dans notre Église, c'est autour de l'importance de la prière communautaire, la prière de l'Église, la prière au pluriel. Quel que soit ce que je sais faire seul, mais je veux reconnaître au travers des Écritures l'appel de Dieu pour la prière avec mes frères dans l'Église. En parlant de l'Église, Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et les forces et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. C'est-à-dire, je veux m'associer à notre Église, à l'appel de l'Église locale, pour apporter ce que je sais faire seul, pour que Dieu nous bénisse. Et ici, il dit, quand ils eurent prié, je vois la notion plurielle. Donc, ils étaient ensemble. Ils ont prié. Ils ont prié et voilà ce qui se passe. Le lieu où j'étais assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, la prière change les choses. Sur le plan personnel, je prie, tu pries. Nous avons tous des témoignages de ce que Dieu a déjà fait à la suite de nos prières. Mais ici, il est question de la prière communautaire. Je propose un autre texte. Romains, le chapitre 12, verset 12. Voyons ici ce que l'apôtre Paul dit. Si nous commençons le texte pour mieux le comprendre à partir du verset 9. Romains, chapitre 12, verset 9. L'apôtre Paul dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Et voyez au verset 12, il dit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Vous voyez, là aussi, il pouvait s'adresser à une seule personne. Mais je crois que c'est à la communauté de Rome qu'il écrit. Donc, à toute la communauté, l'apôtre Paul demande de persévérer dans la prière. Et au chapitre 15, toujours des Romains, au chapitre 15, le dernier verset, non, le verset 31, l'apôtre Paul dit, non, verset 30 à 31, il dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté du Seigneur. » Et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous. Amen. voyez, mes chers frères et sœurs, ici, c'est l'apôtre Paul qui pouvait. Il avait aussi il connaissait Epaphras, il connaissait Timothée. Il pouvait s'adresser à ces personnes pour qu'ils intercèdent en sa faveur d'une manière individuelle. Mais là, il écrit à cette congrégation de Rome. Il leur dit, il les appelle à combattre avec lui en adressant à Dieu des prières en sa faveur. Donc, je vois, si l'apôtre Paul peut demander les prières à l'Église en sa faveur, qui suis-je pour ne pas compter aussi sur les prières de mes frères et sœurs en Christ, non pas seulement individuellement, mais l'Église qui se mobilise pour prier en vue de soutenir quelqu'un. Oui, je me réjouis de voir en face là-bas, comme sujet de prière, Gilberte, maman Véronique. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont compris que même s'ils peuvent prier seuls, même s'ils peuvent envoyer des lettres de demande d'intercession en Amérique, en Afrique, à gauche, à droite, ou même en Corée, mais ils sont membres d'une église locale. Ils savent que l'église locale peut les soutenir dans la prière. Et c'est mon propos ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. La communauté locale, l'église locale qui entre en prière pour les besoins des membres de l'église. Pour que s'il arrivait quelque chose, que l'église sache que les médecins ont fait leur travail, les psychologues ont fait leur travail, l'église a fait aussi son travail. Seigneur, telle était certainement ta volonté. Nous savons que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu a le dernier mot. Mais ce n'est pas pour rien qu'il nous a dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Je disais l'autre jour, c'est le début de l'année. Nous rappelons ce que Jean dit à Gaïus. Je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais nous savons tous combien dans nos églises l'ennemi nous attaque. Il commence par nous fragiliser dans la santé physique. Il la fragilise parce qu'il sait que quand la Bible dit « élevez vos mains », mais si j'ai mal dans tous mes membres, comment est-ce que je vais élever mes mains pour adorer Dieu? J'ai besoin d'aller à l'église en utilisant mes jambes. Et si je suis attaqué dans ma santé, je ne pourrai pas aller à l'église. Et il y a des choses qui sont naturelles, mais il y a des choses qui sont anormales. Et quand l'ennemi nous attaque, nous savons que seul, je peux faire quelque chose, mais seul, je ne suis que seul. Mais si je suis dans le cadre de mon église locale et que toute l'église rentre en prière, il y a des choses qui peuvent se passer. Et là, au moins, l'église est tranquille parce qu'elle a joué son rôle. Et l'apôtre Paul, je crois qu'il le savait quand il demande la prière de toute la communauté. Il le fera aussi aux Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 2 à 4. Colossiens au chapitre 4, il le dit, oui, au verset 2, Colossiens chapitre 4, verset 2, Paul écrit et dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Vous voyez, là, Paul s'adresse à la communauté, il s'adresse à l'église, il s'adresse aux Colossiens, il s'adresse à eux au pluriel, non pas en disant « toi tel que tu pries pour moi ». Il pouvait le faire, certainement qu'il l'a fait. Mais lorsque moi je lis ce texte avec simplicité, je me dis non, l'apôtre Paul demande la prière aux Colossiens et je crois que nous devons avoir l'humilité de présenter le sujet de prière à notre Église et insister pour que l'Église nous porte dans la prière. C'est ce qu'a fait dernièrement une sœur en Christ de notre Église. J'avais donné le témoignage de son fils, 15 ans, qui descendait petit à petit dans la drogue, et pas n'importe quelle drogue. La maman en avait assez, elle a tout fait, jusqu'à aller même au tribunal chez les procureurs pour voir les possibilités de placer l'enfant dans des foyers à gauche et à droite. Mais l'Église a commencé à la soutenir, à la soutenir. Et un jour, c'est elle-même, il y a quelques semaines, qui a dit, « Pasteur, est-ce que l'Église peut gêner? Est-ce que l'Église peut gêner pour mon fils ?» Nous l'avons annoncé dans l'Église en disant, « Mais bien aimé, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à cela. » Nous avons cité le prénom de l'enfant. Et nous avons cité aussi le nom de la maman. En disant, voilà, notre sœur telle que vous connaissez demande la prière de l'Église. Mais pas n'importe quelle prière. Pas la prière seulement au culte. Mais l'Église entière va jeûner. Nous avons choisi le jour. En disant, tel jour, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. Nous tous, partout où vous pouvez vous trouver, prenez le temps de citer, de crier à Dieu en citant le nom de tel garçon. Nous avions choisi la journée de mardi pour que tout le monde soit à jeûne et puis nous sommes retrouvés dans l'église pour terminer le jeûne ensemble. C'était seulement ça, l'église qui intercédait en faveur de ce jeune garçon et pour toute la famille. Parce que la maman avait le cœur brisé, Elle a contacté les assistantes sociales, les psychologues, elle a contacté les éducateurs spécialisés qui s'occupent de l'enfant aussi. Mais l'Église, nous nous sommes dit, il nous faut que nous nous mobilisions aussi, parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour nous puissions regretter. Soit à la suite d'un overdose, l'enfant est mort, et puis on va commencer à faire des cotisations, on va aller au deuil, on va faire un service funèbre, faire des discours. Mais parfois, qu'est-ce qu'on pourra dire dans un sermon lorsque l'Église n'a rien fait? L'Église a laissé à la société civile faire le travail. Des fois, nous nous disons, bon, c'est vrai, Dieu a permis que toutes ces organisations existent pour nous venir en aide. Mais souvent, c'est à notre honte aussi. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus ne nous a pas demandé de faire ça. Jésus a dit seulement, en mon nom, les malades seront guéris. En mon nom, les morts vont ressusciter. En mon nom, en mon nom, en mon nom. Mais qu'est-ce que nous nous faisons? Nous orientons les gens vers tous ces services-là, alors que nous avons la puissance. Lorsque nous pouvons voir tout ce que nous avons confessé ce matin dans les champs, tout ce que nous reconnaissons en notre Dieu, il est fort, il est tout-puissant, rien n'est impossible à lui. Et la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Donc nous savons que notre Dieu peut faire toutes ces choses. Mais des fois, l'Église, nous ne persévérons pas. Nous ne persévérons pas. Et puis, nous lâchons. Et lorsque nous pouvons réclamer, lorsque nous pouvons regarder dans nos églises, dans la nôtre aussi, nous avons cette difficulté-là. Nous persévérons dans beaucoup de choses. Nous organisons très très bien tout ce qui est louange, tout ce qui est service d'accueil, tout ce qui est ceci et cela. Mais en ce qui concerne l'intercession, la prière de l'Église, nous n'y veillons pas assez souvent. C'est ainsi qu'on se retrouve surpris ou court-circuité par le diable. Et puis tout de suite, on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et on commence à s'accuser les uns les autres. Et parfois même, on rentre dans des problèmes. Donc nous avons soutenu cette sœur. À l'heure actuelle, nous ne voyons pas encore l'accomplissement total. Mais l'enfant qui a... Mes frères et sœurs, imaginez-vous un enfant de 15 ans qui découche, qui rentre à 3 heures du matin, qui dit à sa mère, tu peux tout faire. Et la maman est médecin. La maman est médecin, donc elle a tout ce qu'il faut pour bien élever quand même cet enfant-là. L'enfant qui rentre, qui commence à toucher à la drogue dure. Il fume. Lorsque moi je peux lui parler, il m'arrête, il dit, mais pasteur, est-ce que tu me permets d'aller fumer? Il va dans le jardin, il fume d'abord et il revient. Mais à l'heure actuelle, ça commence à aller petit à petit, petit à petit. Ça commence à aller, l'enfant maintenant s'est rapproché beaucoup de sa mère. Il s'est rapproché de sa mère, il n'a pas encore repris le chemin de l'église, mais nous voyons quand même les petits signes qui nous encouragent à persévérer dans la prière. Nous avions détaché quelques personnes pour que tous les mercredis soirs, qu'ils aillent dans la chambre du garçon en son absence. Quand il est là, il prie dans le garage. Allez-y, priez, dites quelque chose à Dieu. Criez, criez, criez. Mais Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Et la prière de l'Église est souvent sensible pour apporter de l'aide matérielle. Mais nous sommes en train de comprendre que l'Église devrait être sensible aussi à soutenir spirituellement en cas de maladie. Voilà, l'apôtre Paul le demande aussi dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6, verset 18 à 20. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Voyez, mes bien-aimés, encore une fois, l'apôtre Paul, ce grand homme de Dieu, avec tout ce qu'il était, c'était certainement un intercesseur aussi. Mais il demande la prière. Et la prière, il la demande à la communauté. Et cette fois, c'est à la communauté d'Éphèse. Dans la parole de Dieu, il nous est dit, si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose. Et vous voyez, ça, c'est encore une promesse. Si nous nous accordons pour demander quelque chose, et lorsque nous intercédons au niveau de l'église locale, nous y allons avec simplicité en nous appuyant sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, allons-y, car Jésus lui-même a dit, si nous nous accordons pour lui demander, allons-y, demandons. Même si nous ne recevons rien, mais au moins nous avons osé demander. Allons-y en utilisant toutes les stratégies que la parole de Dieu nous montre. Mettons-nous d'accord, pardonnons-nous les uns les autres. Si quelqu'un a un problème avec un autre, faites un grand effort. Voyez les défis que nous avons à relever. Il est question de quelqu'un qui est malade, il est atteint d'un cancer. Si nous intercédons dans le désordre, c'est-à-dire dans la mésentente, avec la rancune, la rancœur, les uns les autres, ça ne marchera pas. Pourquoi ne pas? Au nom de l'amour, au nom de l'intercession pour ce cas grave, capituler, demander pardon, céder, pour que nous soyons en accord. Afin que la prière locale ne soit pas perturbée par le désaccord de deux frères ou deux sœurs peut-être qui ne se partent pas souvent à cause des futilités. Et nous laissons le temps comme ça de réconciliation avant de nous engager dans la prière d'intercession. La Bible nous dit aussi en parlant de la prière communautaire, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Seigneur. L'apôtre Paul le dit aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres. Donc vous voyez que tout ça, c'est toujours, comme je l'ai dit au début, la notion de la prière de l'église locale. Même lorsque nous pouvons avoir le groupe d'intercession dans l'église, même lorsque nous pouvons avoir des frères, des sœurs qui ont vraiment cette grâce d'intercession. Mais ce n'est pas de cela que moi je veux parler. C'est vrai, ce sont les grâces que Dieu nous accorde dans l'église. Il peut y en avoir qui prient plus que les autres. Il peut y en avoir qui prient plus longtemps que les autres. Tout ça, c'est bien beau. Mais pourquoi ne pas sensibiliser tout le monde dans l'église pour se dire, bon, écoutez, là maintenant, c'est au nom de l'église. C'est l'église qui le fait. Même si ceux qui intercèdent à côté le font aussi au nom de l'église, mais c'est nous, nous nous retrouvons dans l'église pour pouvoir intercéder et porter les frères et les sœurs, ou même une famille dans la prière. C'est-à-dire qu'au niveau de notre église, on s'est dit, bon, même si nous faisons des choses que nous lisons dans la Bible, gloire à Dieu, même si nous faisons des choses que le Seigneur nous inspire lui-même, et que d'autres peuvent se moquer de nous, c'est pas grave, pour nous, tant que cela n'est pas un péché, allons-y quand même. Allons-y, on ne sait jamais. Tant que cela n'est pas un péché pour nous, même si l'église d'à côté ou les frères et sœurs à côté disent que, ah, mais vous, vous exagérez, mais vous aussi, pourquoi vous faites ça? Ah, mais vous, il n'y a que les Africains qui peuvent faire ça. On dit, c'est pas grave. Le Dieu n'est pas seulement le Dieu des Européens ou des Américains ou des Africains. Dieu est Dieu pour nous tous. Allons-y quand même. Et lorsque nous avons commencé à faire les prières dans la nature, nous ne l'avions jamais lu quelque part dans un livre. Mais nous étions surpris de voir que, un jour, je me souviens, nous sommes partis à la CLC. C'était dans les années, je crois, 90. Nous avons rencontré un groupe de serviteurs de Dieu anglais. Ils sont venus, à l'époque, c'était Paul Cave qui était responsable de la CLC. Il nous a présenté ces missionnaires anglais. Il nous a expliqué ce qu'ils étaient venus faire. Et ces missionnaires nous parlaient de la prière, de ce qu'ils faisaient déjà en Angleterre, qu'ils priaient dans la nature. Ils allaient devant pour renverser les forteresses, devant les administrations, devant la mairie, devant les banques, devant tous ceux qui détiennent le pouvoir, pour essayer de briser les puissances des ténèbres qui gardent la ville. Et personnellement, j'étais ému d'entendre ça, parce que nous avions déjà commencé à le faire. Nous avions déjà commencé à le faire dans le cadre de notre église à l'époque. On sortait dans la nature, dans des voitures, en se disant, allons invoquer la puissance de Dieu dans la ville. Allons invoquer la puissance de Dieu dans la ville. On allait devant la mairie en disant, Seigneur, souvent ceux qui nous gouvernent, nous partions aussi de l'expérience un peu en Afrique. La plupart, c'est rare de trouver un président qui arrive au pouvoir sans passer par les puissances des fétiches, sans avoir un marabout. Il y en a qui, avant de prendre des grandes décisions, il va demander d'abord à son marabout si cette décision, il peut l'appliquer ou ne pas l'annoncer. Et finalement, on s'est dit, mais est-ce que c'est le marabout qui gouverne ou c'est Dieu qui devrait gouverner? Alors, allons intercéder devant ces autorités. On dit, en Afrique, c'est les marabouts, les vaudous et les féticheurs. Mais en Europe, ça peut être la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, toutes ces puissances des ténèbres aussi qui existent. Donc, allons-y aussi. Et on sortait comme ça, là, dans la nuit, dans des voitures, tard dans la nuit. On sort, on se dit, mais tiens, si c'est autorisé que ceux qui ont été dans les boîtes de nuit circulent parfois ivres dans la rue sans être embêtés, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se permettre aussi, nous, de nous promener dans ce pays de liberté en marchant comme ça? Quelqu'un peut croire que je suis fou, mais Dieu sait que je ne suis pas fou. Je suis en train de dire la prière et d'invoquer la puissance de Dieu autour du commissariat, devant la mairie, que le maire soit là ou qu'il ne soit pas là, nous savons là où il est. Et Dieu sait là où il est. Alors on dit seulement, Seigneur, nous invoquons ta puissance. Et vous voyez, le Saint-Esprit nous inspire des prières à faire comme ça, pour gagner aussi la faveur de ceux qui nous dirigent. Et nous étions réjouis de voir qu'en Angleterre se faisait déjà ce que nous avions commencé à faire dans notre petite commune à Villeneuve-d'Ascq et dans nos différents quartiers aussi. On s'est réjouis. Et lorsque, au fur et à mesure, nous sommes entrés en contact avec beaucoup de livres sur la prière, on s'est rendu compte que non seulement on découvrait certaines nouveautés aussi que nous avons commencé à appliquer, mais nous avons trouvé aussi des choses qui se faisaient déjà ailleurs et que nous avions commencé à faire dans le cadre de notre église, mais avant même d'être au contact avec cela. Là, je vais donner le témoignage d'une famille qui ne venait plus à l'église. Non, le mari ne venait plus à l'église. Et puis, la femme était triste. Elle a demandé la prière de l'église. Nous avons prié. Un jour, nous avons organisé une veillée de prière, mais dans la nature. Nous sommes sortis, je crois que c'était vers 1h du matin, en plein hiver. Nous sommes dit, bon, allons. L'épouse n'était pas là. Elle nous avait donné seulement le sujet de prière. Mais l'église a porté le mari dans la prière. Et puis, à ce moment-là, c'était le groupe d'intercession à la veillée. Nous avons prié et nous sommes partis en disant, allons prier devant le domicile de cette famille-là. Nous sommes venus, on est sortis de la voiture, on priait. Et il y en a qui sont partis même à la fenêtre, poser la main, toujours en citant le nom de ce frère. Il s'appelait Richard, il est maintenant aux Antilles, en Guadeloupe, avec toute sa famille. Nous avons prié. Mais à 1h du matin, pendant ce temps, lui, il ne dormait pas. Il a senti un bruit, quelque chose comme ça. Et puis, il s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Je sors un peu pour voir. Quand il a ouvert la porte, à 1h du matin, mes bien-aimés, il nous a tous vus là, en plein hiver, il y avait la neige. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On a saisi l'occasion pour dire, mais frère Richard, c'est pour toi que nous intercédons. Nous sommes entrés dans la maison, 1 heure passée, nous avons prié, il s'est mis à genoux. Nous lui avons imposé les mains, sa femme est descendue, nous avons prié le Seigneur ensemble dans leur maison à Fives. Et le lendemain qui suivait, il a repris le chemin de l'église. Nous avons rendu grâce au Seigneur pour ça. Il nous est arrivé aussi, chaque fois que quelqu'un dans notre église est hospitalisé, l'église entre en prière. quand c'est des cas graves, nous essayons d'utiliser toutes les stratégies possibles. Les différents groupes dans l'église, on se dit, bon, on ne sait jamais. L'église est en train de prier. Cette fois, c'est les hommes. Les hommes entrent en prière, soit jeûne et prière, ou simplement en prière, mais pour aller prier à l'hôpital. C'est les hommes qui partent. On se pose des questions. Peut-être que Dieu n'a pas exaucé l'église entière. Il peut nous exaucer seulement à cause de ces hommes qui vont intercéder. Les hommes vont, ils prient. Et puis ce sera le tour des femmes aussi. Si Dieu ne nous a pas exaucés à cause des hommes, peut-être il peut nous exaucer à cause des femmes. Quand les femmes prient, les choses changent. Les femmes partent aussi. Et puis on programme un autre jour pour que les couples puissent y aller. Et là nous demandons à tous les couples d'être en accord. D'être en accord. Vous vous pardonnez, vous êtes vraiment en accord. Rien que pour intercéder en faveur de notre sœur ou de notre frère qui est malade. Les couples aussi partent. Nous avons quelques veuves dans l'église. On leur dit aussi, maman, la Bible dit qu'il est le défenseur des veuves. Dieu peut vous entendre aussi. Alors, mobilisez-vous, programmez soit une journée de jeûne et de prière, ou une nuit de prière, ou simplement un temps de prière, vous partez en accord, vous aussi à l'hôpital. Vous intercédez en faveur de notre frère ou de notre sœur qui est malade. Et ça se passe ainsi. Nous mobilisons aussi les jeunes dans l'église. On dit, attention, la prière, ce n'est pas seulement l'affaire des parents, mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc, vous, les jeunes aussi, vous vous mobilisez, vous choisissez un jour, vous allez intercéder là-bas. Et puis, dans l'église, nous avons été inspirés aussi de choisir les jeunes filles qui sont vierges, qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel, dans leur pureté, avec les responsables de l'école du dimanche. On dit, arrangez-vous, programmez, ces enfants savent prier. Elles sont encore pures. Qu'elles aillent, elles aussi, intercéder, se mettre à genoux dans la chambre d'hôpital et crier à Dieu. Dieu peut les entendre aussi. Si Dieu n'a pas exaucé les parents, il peut aussi nous exaucer quand même, puisque à cause de la pureté de ces enfants, de ces jeunes adolescentes et adolescents qui s'égardent. Et il y a donc toutes ces stratégies que nous utilisons. Nous avons déjà vu des résultats. Nous en voyons encore. Mais il y a aussi des moments où, malgré toutes ces stratégies, nous avons vu Dieu dans sa souveraineté, soit prendre la personne auprès de lui, soit sauver et guérir. Nous avons les cas de guérison dans l'Église à la suite de toutes ces intercessions-là. Et des fois aussi, nous faisons les prières des responsables. On dit, vous voyez, on ne peut pas être responsable pour rien dans l'Église. Il faut aussi que, en plus de tout ce que nous savons faire, en tant que responsable, on se retrouve aussi, cette fois-là, non pas pour discuter ni de l'argent, ni de telle ou telle chose dans l'Église, mais rien que pour intercéder, parce que la personne pour laquelle nous prions, si ça ne va pas, ou elle va nous quitter et quittera l'Assemblée, ou alors elle va mourir, ou à quoi servirait alors sa présence dans l'Église si nous qui sommes responsables, notre première responsabilité n'était pas celle de porter toutes ces personnes d'abord dans les prières. Donc vous voyez, il arrive aussi que il nous est arrivé d'avoir, quand nous avons acheté notre premier local, d'être en retard. Suite à un désordre que nous avons eu dans l'église, nous nous en sommes repentis devant le Seigneur. Nous nous sommes retrouvés en retard de 150 000 francs français à l'époque. Alors que nous avions un prêt, la banque nous menaçait. La banque allait déjà nous ravir les bâtiments et les revendre. C'était dur, très très dur. On a connu une hémorragie dans l'église. Beaucoup de personnes étaient parties. On s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et nous nous sommes mobilisés dans la prière d'intercession. Nous avons écrit des lettres à tous nos partenaires, en Amérique, partout dans le monde, pour demander de l'aide financière. Tous nous ont répondu en disant seulement, nous vous soutenons dans les prières. On n'a eu aucun, rien. C'était, nous vous soutenons dans les prières. Nous avons écrit. Mais Dieu s'est servi d'eux pour nous exhorter aussi à la façon de prier. Parce qu'il y en a qui disaient, frère, vous demandez de l'argent, mais l'argent c'est parmi vous. Au milieu de vous, il y a de l'argent. Nous avons mobilisé l'église dans la prière. nous avons vraiment crié au Seigneur en utilisant toutes les stratégies que je viens de vous dire là. Là, c'est dans toutes les situations, soit pour le cas des maladies, soit quand il peut y avoir peut-être les gens qui ne s'entendent pas dans l'église, on voit que ça devient dur. Quand nous voyons un couple qui est menacé de divorce, ça ne passe pas. Et c'est à ce moment-là que pour certaines choses, nous ne les disons pas publiquement à l'église, mais nous essayons de mobiliser vraiment, vraiment des personnes qui sont matures dans l'église. Et on leur dit la vérité. Il y a eu un cas où le sang a coulé dans l'église. Il n'y avait pas moyen de l'annoncer. Il y a eu une famille qui n'a pas écouté les conseils, tous les conseils qu'on leur a donnés. Ils ont fait avorter leur fille, alors qu'ils connaissaient le Seigneur, ils savaient tout. Nous l'avons dit, non, gardez l'enfant, malgré ce qui est arrivé, gardez, ils n'ont pas écouté. Mais nous avons dit, mais c'est dans l'église quand même. C'est dans l'église, parce que même moi, le pasteur, j'étais au courant. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais, ça n'a pas marché. Ils ne m'ont pas écouté. Mais le mal a été fait. Nous nous sommes dit, mais ça ne va pas rester comme ça. Il faut qu'on se repente au niveau de l'église. Il faut vraiment une repentance de l'église. Mais comment le faire? Sinon, on allait choquer la famille et la perdre. À ce moment-là, c'est les femmes que j'ai réunies. Toutes les femmes dans l'église, en disant la vérité. Et ceux qui étaient au courant et ceux qui n'étaient pas au courant, je leur ai dit, mes chères sœurs, c'est un cas grave. Il ne faut pas que Dieu punisse l'église à cause du péché d'une seule famille. Alors, il faut que nous rentrions vraiment dans une prière de repentance. Il y en a qui ont jeûné, on s'est retrouvés. J'étais obligé de citer les noms en leur demandant vraiment de garder. Celui qui pouvait l'apprendre par ses propres voies, là c'est son affaire. Mais au niveau... Et nous avons passé toute une nuit dans la prière en criant au Seigneur pour lui demander pardon. Car autant nous pouvons aller vers lui pour lui demander d'intervenir, autant aussi nous pouvons aller vers lui pour lui demander vraiment pardon pour ce sang qui a coulé. Alors que nous savons bien que la Bible nous interdit toutes ces choses, sauf quand ça peut être thérapeutique ou recommandé par le corps médical. Et nous demandons, nous utilisons aussi, nous appelons l'Église à la prière communautaire, même pour demander pardon à Dieu aussi. Quand, comme je le disais, il peut être question de menace, une famille qui est menacée de divorce. Ce sont les deux personnes que nous connaissons. On peut aller avec les conseils, on peut aller avec l'évangile, on peut utiliser tous ces moyens. Parfois, ça ne passe pas. On dit non, Dieu sait toutes choses. Il y a des situations qui peuvent nous dépasser. Alors, tournons vers Dieu qui sait tout. Parfois, nous, on peut commettre les erreurs de discernement. On peut commettre des erreurs. On peut dire que c'est vraiment ça Dieu a dit. Mais nous sommes environnés du péché. On peut se tromper. Mais Dieu, il ne se trompe pas. On dit, Seigneur, nous ne savons pas. Alors, nous nous tournons vers toi. Est-ce vraiment ta volonté que ces gens se séparent? Nous ne savons pas. Alors, on rentre dans la prière, dans le jeûne, en criant au Seigneur, en priant. Nous nous intercédons et nous voyons Dieu parfois, même 6 mois après, même 8 mois après, Dieu décanter la situation. Parfois, on ne peut pas donner le témoignage pour ne pas faire du mal à certains. On garde cela, mais on peut toujours se retrouver en petit groupe pour rendre grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Nous organisons aussi, comme le frère Jean-Luc le disait tout à l'heure, des chaînes de prière aussi, pour des cas, pour certaines personnes qui ne peuvent pas. Nous avons eu déjà l'habitude de le faire, surtout quand nous avions cette situation financière difficile, difficile. On organisait les prières. À l'époque, il n'y avait pas encore de portables. Les portables n'existaient pas encore comme maintenant. On se disait, bon, on va se téléphoner tous. Nous intercédons. Tout le monde se réveille à 5 heures du matin pour prier pendant une heure. Toi, tu me téléphones, moi, je téléphone l'autre téléphone l'autre. On s'arrange comme ça avec les numéros de téléphone et tout le monde est debout chez lui à 5 heures du matin. On se met à genoux en train d'intercéder ensemble. On prie pendant une heure jusqu'à 6 heures du matin, nous avons arrêté. Mais lorsqu'on a compris, maintenant, c'est souvent à l'église qu'on le fait. On dit, bon, mes bien-aimés, cette semaine, au lieu de rester toute une nuit dans la prière, nous voulons peut-être faire 6 heures d'intercession pendant toute la semaine. C'est-à-dire que chaque jour, on se retrouve de 6 heures du matin jusqu'à 7 heures avant d'aller au travail. De 6 heures à 7 heures, chaque jour. Donc, à la fin de la semaine, nous totalisons soit 6 heures si nous avons commencé de lundi à samedi, ou 7 heures d'intercession si nous avons commencé de lundi jusqu'à dimanche matin. Et on s'est dit, bon, nous avons fait ce que la Bible dit. Elle dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et cette fois, dans le cadre de la prière communautaire. Et nous appelons donc l'Église à faire. Mais des fois aussi, c'est chacun prend un créneau, mais sur la journée. Toi, tu prends de 6h jusqu'à 7h. L'autre commence de 7h jusqu'à 8h. Un autre de 8h. Et on essaie de boucler comme ça toute la journée, mais pour les mêmes sujets. Et celui qui ne peut pas être libre, tout de suite, il téléphone. Souvent, quand c'est moi qui suis à la permanence, on m'appelle pour dire, bon, je ne serai pas libre pour intercéder. Y a-t-il possibilité de prendre une autre personne pour que moi, je change de créneau? Et cela aussi, ça nous arrive pour les mêmes sujets. Même si la semaine dernière, nous avons prié par petits groupes, mais tant que la personne est à l'hôpital malade, frères et sœurs, l'Église n'arrête pas de prier. Je peux ne pas prier, moi, mais je sais que l'Église est en prière. Il y a des personnes qui sont en prière. Jusqu'à ce qu'on saura que la personne est sortie de l'hôpital ou alors quand on verra que la personne est partie. Mais ce n'est pas facile aussi. Vous pouvez avoir des paroles précises que Dieu va reprendre la personne. Il faut seulement que la famille se prépare. Mais mettez-vous à la place de la famille. Qui acceptera qu'on lui dise, bon, ça ne vaut plus la peine d'intercéder car Dieu va prendre ta fille, ton fils. Ou... Ce n'est pas facile à dire. Mais pendant ce temps, l'Église continue à prier. L'Église prie, mais cette fois, on peut changer la façon de prier. On peut dire, Seigneur, là, nous voulons seulement que tu accomplisses ta volonté. Les médecins ont dit, ils ont confirmé que ce n'est plus que question de quelques jours. Qu'est-ce que nous allons faire? On continue seulement à s'attendre à toi. On te prie pour que dans ta souveraineté, tu fasses ce que tu as prévu. Mais qu'est-ce que nous faisons, Seigneur? Ta parole nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Seigneur, mon besoin, ce n'est pas que tu l'apprennes. Mais si tu veux l'apprendre, que ta volonté soit faite. Moi, mon désir, c'est que tu ne la laisses encore. Mon désir, c'est que tu les laisses encore, car la moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin, surtout quand nous savons aussi que le diable, parfois, quand il peut discerner aussi que telle personne a un appel vraiment pour servir le Seigneur, surtout nos jeunes, dans les églises, dans nos maisons. Si nous prions pour nos enfants, c'est que Dieu les bénit. Dieu accomplira sa volonté pour qu'ils les servent un jour. Nous savons aussi que si le diable a voulu que Moïse soit éliminé, étant bébé, certainement il savait que Moïse allait être le libérateur. Et il voulait qu'il soit éliminé en étant bébé. Mais Dieu s'est servi de ses parents pour qu'il le cache, le garde. Et on a vu par après ce qu'il est devenu. Nous savons tous aussi que notre Seigneur Jésus-Christ a failli être éliminé. Mais il a fallu que ses parents fuient avec lui en Égypte. Et on sait comment le diable cherche à étouffer. Merci. Le diable cherche à étouffer. À étouffer tous nos projets. Parce qu'il sait que quand ça va s'accomplir, c'est son royaume qui sera dévasté. Et le diable fait en sorte que beaucoup de nos projets échouent. Regardez dans nos églises, des bonnes résolutions que nous prenons, souvent ça ne va pas loin. Souvent ça ne va pas loin. Chez nous aussi, je me bats avec des frères et des sœurs. Mais pourquoi nous avons commencé il y a 6 mois telle activité? Mais on ne peut pas continuer. Des fois... Simplement parce que deux responsables se sont disputés à lui. Tous les projets coulent à l'eau. Et je crois, comme vous aussi, que l'ennemi se cache derrière beaucoup de choses pour nous empêcher d'avancer. Et c'est ainsi que, parfois, au nom de la politesse, au nom de nos traditions, de nos habitudes, on se dit, ah bon, mais vous voyez, en France, il dit, il faut prendre seulement 3 repas par jour pour être en bonne santé. En hiver, on ne peut pas jeûner parce que c'est là où il faut beaucoup manger. Vous voyez, en été, il fait trop chaud, il ne faut pas... Vous voyez, toutes ces choses existent depuis nos parents, depuis vos parents. Tout ça, ça existe et c'est bien bon. Mais pourquoi la Bible parle de jeûner et prier? La Bible parle de jeûner et de prier. Il y a des choses que nous n'aurons pas si nous ne faisons pas pression quelque part. Il y a des choses que nous n'aurons pas. Il y a des choses que nous n'aurons pas. Si nous ne faisons pas pression quelque part dans nos églises pour se dire non, c'est vrai que En réalité, c'est comme ça. En principe, c'est comme ça. Mais voilà ce que la Bible dit. Quand nous lisons les petits prophètes et d'autres grands prophètes qui nous parlent de jeûnes et prières, il y en a même qui disent que même les enfants à la mamelle doivent jeûner aussi. Même les bêtes ne devaient pas manger dans le livre de Joël. Il nous est dit, on se dit, bon, cela a eu lieu dans l'Ancien Testament. Bon, nous, notre Église, c'est l'Ancien Testament, c'est vrai. Mais c'était les enfants de Dieu aussi. Faisons quand même un peu ça. C'est ainsi qu'on se dit, bon, allons-y. Nous, même, est-ce que chaque famille peut choisir d'exhorter les enfants, mais sans les crier tout haut? On dit souvent, attention, que les assistantes sociales n'entendent pas. Sinon, ils vont nous accuser pour une assistance à enfants en danger. Vous voyez, mais souvent, nous disons, attention, ça c'est entre nous. Donc, exhorter les enfants pour leur dire que c'est la famille qui va gêner aujourd'hui pour tonton tel qui est malade, pour tantine tel qui est malade. Attention, n'allez pas en parler à l'école. Parce que quand les enfants vont en parler, eux, ils ne savent pas ce que nous, nous savons. On peut être traîné au tribunal. Dès que la presse apprend cela, tout de suite, c'est l'Église qui est attaquée. Donc, par sagesse, on se dit, attention, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Mais à autre part, on dit, celui qui a des problèmes de santé, qu'il demande autorisation à son médecin. Ah, là, on le dit à autre part. Au moins, les gens ont compris que s'il y a parfois les intrus dimanche qui peuvent aller nous accuser, ils sauront que dans cette Église-là, ils ne sont pas contre les médecins, ils ne sont pas contre les médicaments. Ils encouragent les gens à aller demander l'avis de leur médecin s'ils peuvent gêner ou ne pas gêner. Certaines choses, on ne dit pas. On dit attention, il faut savoir court-circuiter le diable. Il faut savoir court-circuiter. Si nous disons tout au nom de... Oh bon, attention, notre assemblée générale dit qu'il faut tout dire. L'assemblée générale est souveraine. Il faut faire ceci et cela. Frères et sœurs, j'ai dit dans notre église, nous avons des statuts, nous avons tout, c'est bien. Mais qui dirige l'Église? C'est les statuts ou la Bible? Qui dirige l'Église? Si c'est les statuts, alors nous ne serons pas bénis. Mais quand c'est la Bible, nous serons bénis. Les statuts, c'est pour l'État. Les statuts, c'est pour l'État. Alors, nous venons dans l'Église, nous disons, Seigneur, tu es souverain. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Mais quand on débat les choses de l'Église, nous disons, ah, mais l'Assemblée générale, elle est souveraine. Bon, finalement, alors, oui, frères et sœurs, et on discerne que, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Si nous ne discernons pas toutes ces petites choses, beaucoup de choses que nous faisons au nom de Dieu n'auront pas d'efficacité dans nos églises. Alors, le Seigneur nous permet d'avoir le courage de parler clairement aux membres de l'Assemblée en disant, regardez, nous sommes là entre nous. La loi dit qu'il nous faut faire ça, ça, ça. Faisons-le pour être approuvés par les autorités. Quand ces autorités viendront, qu'on leur montre clairement que nous ne trichons pas, voilà ce qui se passe. Mais les autorités ne doivent pas tout savoir. Car elles ne sont pas encore converties. Même si la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, mais ces autorités ne sont pas encore converties. Les autorités ne sont pas au-dessus de Dieu. Rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais César sera jugé par Dieu. César, s'il ne se convertit pas, il ira en enfer. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous finissent par partir, mais ceux qui sont d'accord restent. On se dit que quand je me suis converti, je ne me suis pas converti devant un statut. C'est la parole de Dieu qui a été lue pour que je sois converti. Et si je suis dans une église, j'ai besoin d'être béni, que l'église, nous sachions faire la part des choses. Parfois, on peut nous accuser, ah, mais vous, les Africains, là, vous êtes des magouillères, vous êtes des margoulins, ceci. On dit, Seigneur, toi, tu sais que nous ne margoulinons rien. Seigneur, nous faisons tout dans la transparence. Dans la transparence. Et un jour, en appelant l'Église à intercéder pour les finances. Je dis, regardez un peu, pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage du côté financier? C'est parce que nous avons peur de l'État, alors que l'argent, l'État ne nous donne rien. Mais comment est-ce que l'État doit contrôler ce que Dieu nous donne? Les offrandes et les dîmes que nous apportons dans la maison du Seigneur, ce n'est pas l'État qui nous les donne. Nous faisons les choses en ordre pour qu'en cas de contrôle, que l'État voit que nous ne commettons pas des vols, mais nous devons tout faire selon ce que Dieu nous demande de faire. Selon Dieu d'abord. Donc, mes frères et sœurs, repentons-nous d'avoir eu plus peur de l'État que de Dieu. Repentons-nous d'avoir plus obéi à l'État qu'à Dieu. Ceux qui acceptent, même si c'est un petit groupe, nous nous mettons à genoux, nous demandons pardon à Dieu. Et nous demandons aussi la sagesse. Parce que il faut, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Seigneur, mais regarde, nous faisons ton œuvre et nous sommes endettés. Et nous courons vers les non-convertis pour prendre des crédits. Seigneur, tu peux nous bénir. C'est là que le Seigneur nous inspire à prier beaucoup pour les banquiers. J'ai donné l'autre jour un témoignage. Dernièrement, nous voulions acheter un lieu de culte. Nous avions les assurances d'un certain fonctionnaire de la banque, le fondé de pouvoir qui gère notre compte. Il nous a donné les assurances. Nous les avons transmises à l'église. En fin de compte, la banque nous a refusé les prêts pour acheter les lieux de culte. Fallait-il l'annoncer à l'église? Je dis, mais là, ça va perturber l'église, mais continuons à plonger l'église dans l'intercession. Frères et sœurs, nous avons utilisé certaines de ces stratégies que je venais de vous énoncer ici. Nous avons prié. Et un jour, j'étais inspiré par le Seigneur pour que nous fassions la prière dans la nature et autour de cette banque. Mais cette fois, nous sommes partis avec tous les chantres dans l'église. Nous avons loué un minibus avec quelques voitures. Nous étions, je crois, une quarantaine. Nous sommes partis, je crois, c'était autour de 23 heures dans les rues de Lille. Notre banque, c'est la Banque française de crédit coopératif. Nous avons commencé à faire le tour, à intercéder autour. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans cette banque qui sont ici, mais en tout cas, nous vous bénissons. Alors, nous sommes partis, nous avons intercédé, il y en a dans des voitures qui louaient le Seigneur, qui proclamaient la souveraineté de Dieu, qui proclamaient que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous avons invoqué aussi la puissance de Dieu en nous disant, nous savons que l'argent c'est d'abord, c'est maman. L'argent c'est maman, que les puissances de l'ennemi qui se cachent derrière les banquiers ne nous empêchent pas d'obtenir ce prêt, parce que pour nous, c'est un lieu de témoignage que nous bâtissons. Il y a des gens qui viendront pour se convertir, pour se marier, pour se repentir, pour se faire baptiser, pour se réconcilier dans ces lieux-là. Seigneur, que nous ne les rations pas. Nous sommes partis en faisant cette marche de prière autour de la banque, dans les rues de Lille, en proclamant la gloire de Dieu. C'est jusqu'autour de 3h, 4h du matin. Et puis, nous sommes repartis. Quelques semaines plus tard, nous avons eu la réponse positive. Et nous étions vraiment, vraiment encouragés. Il y en a qui ont pleuré. Je me souviens, même quand nous acceptions notre premier lieu de culte, là, nous avons jeûné pendant un mois parce que nous n'avions pas d'argent. Là, c'était en 90. Nous avons prié, nous avons jeûné. Nous sommes partis à la banque. Le banquier a dit, mais quel est votre apport? Il vous faut un apport. Nous n'avions rien. Il a dit, mais vous n'avez même pas le compte à cette banque. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un crédit? À ce moment, nous avions notre compte à la banque Scalbert-Dupont. Et là, nous étions en découvert de 2000 francs. La banque Scalbert-Dupont a refusé. Nous avons pris, à l'issue d'un temps de prière, nous avons pris le bottin, ou comme par tirage au sort, mais conduit quand même par l'esprit, nous avons pris le nom d'une banque, et puis on l'a mise en prière, nous sommes partis. Le banquier a dit, mais quelles sont les garanties que vous nous donnez? Je me souviens avoir répondu, monsieur le banquier, la garantie c'est notre foi. Il dit, mais vous, la foi, mais moi j'ai besoin de l'argent, je n'ai pas besoin de la foi. Oui, c'est, nous lui avons dit ça. Il a dit, bon, je ne vous promets rien, j'accepte votre dossier, mais la première chose que je vous demande, c'est d'ouvrir le compte quand même dans cette banque. Et puis, il fallait ouvrir le compte. Et je me souviens, à l'époque, la première somme que nous avons déposée sur le compte, c'était la somme des enfants de l'école du dimanche. Parce qu'à l'époque, nous habituions, à l'école du dimanche, ils font aussi les offrandes. C'était 70 francs français. Nous sommes partis avec ça. Après un temps de prière, nous avons ouvert le compte en banque avec cette somme. Et puis, nous avons fait rentrer l'église dans cette prière d'intercession communautaire. Nous n'avions pas encore les lieux de culte, mais nous allions dans des appartements. Donc tout le monde est à jeûne toute la journée et on se retrouve dans un appartement pour intercéder et terminer la prière le soir en mangeant seulement la salade. Et nous sommes partis. C'était au 27e jour. Le banquier avait dit, monsieur, moi, je ne vous promets rien. J'accepte votre dossier et je l'envoie au siège à Paris. S'ils disent oui, tant mieux. S'ils disent non, tant pis, mais je ne vous garantis rien. Nous avons commencé à prier. C'était le 27e jour. Le 27e jour, nous étions en prière et jeûne l'après-midi et le téléphone a sonné. C'est le banquier lui-même qui appelait. Ah, monsieur Kamondji, je voulais seulement vous dire que votre foi a marché. La banque vous a accordé ses prêts. Alors, nous avons tous fondu en larmes. On était en train de pleurer. Et pourtant, à l'époque, les gens ont quitté l'église et beaucoup en disant, mais Emmanuel est en train de nous plonger dans des histoires difficiles là. Quelle est cette foi-là? Nous n'avons rien. Il n'y a que les étudiants à l'église. Il n'y a même pas de compte. Est-ce que ça va marcher? Et il y en a qui ont quitté l'église, mais le Seigneur avait honoré notre foi. Et cela, frères et sœurs, c'était dans le cadre de la prière communautaire. Je crois en la prière, en la puissance de la prière communautaire. Cela ne veut pas exclure la prière individuelle. Cela n'exclut pas l'intercession individuelle à la maison. Non, ce matin, mes frères et sœurs, je voulais, par ces quelques témoignages, il y en a tant d'autres, si on pouvait faire témoigner beaucoup de personnes, il y a des choses comme cela que nous faisons. On se dit, allons-y. Parfois, on reste toute la nuit dans la prière. Quand on dit la nuit dans la prière, c'est dit, ce n'est pas la nuit pour chanter, la nuit dans la prière. On dit, il y a des choses que nous savons bien faire, nous savons bien chanter, nous savons bien lire, nous savons bien faire beaucoup d'autres choses. Mais quand il s'agit de la prière, souvent, il y a beaucoup de raisons, beaucoup d'excuses, beaucoup de choses. On dit, non, quand nous venons pour prier, si c'est pour une heure, l'exhortation, c'est peut-être 3, 4, maximum 5 minutes. Le reste du temps, nous sommes à genoux en train de prier. Nous prions. On dit aux gens, il faut prier. Même si tu es fâché, prie. Même quand ça ne va pas, prie. Même si tu peux être à genoux, prie à genoux. C'est lui qui peut, chacun dans sa position, mais nous prions tous. Donc, des fois, nous faisons comme ça. Aucun mois ne passe sans que nous fassions l'une de ces choses-là, parce que les besoins sont toujours là. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas encore vraiment reçu des réponses. Nous continuons à le faire. Même quand moi je peux être fatigué, il y a des bien-aimés dans l'église qui se lèvent comme ça. Des fois nous faisons aussi les marches dans la prière. J'ai parlé des chaînes de prière, jeûne et prière, dévotion matinale, veillée de prière, nuit de prière, marche de prière, les prières dans la nature, devant les prisons, devant les tribunaux aussi. Nous le faisons souvent lorsqu'il y en a qui peuvent être injustement entraînés dans des procès. Nous allons aussi intercéder devant les cabinets des avocats, devant les écoles de nos enfants. À chaque rentrée scolaire en septembre, nous organisons toujours les prières en faveur de nos enfants. Il y a même des parents qui vont à la rentrée scolaire. Il est parmi les premiers avant qu'on ouvre la grille. Il y en a qui partent même, nous croyons en l'onction d'huile. Il y en a qui partent, il a pris l'huile à la main, il va devant la grille de l'école des enfants, il invoque le Seigneur. Nous le faisons aussi avec mon épouse et nos enfants. À chaque rentrée scolaire, deux jours avant, nous partons avec nos enfants devant leur lycée, devant le collège, devant leur école primaire. Nous leur disons, commencez à prier pour vos futurs enseignants, commencez à prier pour vos futurs collègues, que Dieu vous donne des bons camarades, que Dieu éloigne de vous tous ceux qui sont dans la drogue, dans des choses compliquées comme ça. Et devant le lycée, devant les écoles, et les parents, et les enfants, nous faisons toutes ces prières-là. Dans notre église, nous avons, nous demandons à tous les parents de nous donner les adresses des écoles de leurs enfants. Amen. Et l'église se charge régulièrement de présenter au Seigneur les écoles de nos enfants, jusqu'à l'université, même ceux qui sont à l'étranger. Nous prions régulièrement pour le lycée à tel endroit, le collège à tel endroit, demandant au Seigneur d'intervenir pour que nos enfants ne puissent pas sombrer ni dans tout ce qui est homosexualité, ni dans la drogue, ni dans la délinquance. Nous voulons vraiment qu'ils soient des témoins et que les professeurs, les directeurs, tous puissent voir en nos enfants vraiment des personnes qui ne sont pas seulement ce qu'ils vont devenir grâce à l'école, mais qu'ils sachent aussi qu'à côté de l'école, il y a la famille. À côté de la famille, il y a aussi l'église qui joue son rôle. Donc, mes bien-aimés, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je voulais échanger avec vous ces quelques témoignages, non pas pour dire que vous ne savez rien, que nous savons. Non, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais c'est en tâtonnant, il y a des choses parfois que nous lisons et nous ne les appliquons pas. Mais quand nous pouvons appliquer que ça marche, gloire à Dieu. Des fois, nous essayons, ça ne marche pas. Mais nous avons compris l'importance de la prière communautaire. L'importance. Il y en a qui nous disent que ah, ces gens-là, ils prient beaucoup, mais il n'y a rien qui se passe. Nous voyons en cela un défi que les gens du monde nous lancent. Disons, Seigneur, nous n'entrons ni en compétition, ni en concurrence avec qui que ce soit, mais nous voulons seulement crier à toi pour que tu interviennes, car dans la parole de Dieu, nous avons des promesses. Il dit, il peut nous secourir dans tous nos besoins. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous avons un défi que nous sommes en train de relever. Ces derniers temps, je pense que vous l'avez lu dans la presse, il y a une maison qui a toujours été appelée la maison hantée à Villeneuve-d'Ascq. Mais nous connaissons cette maison depuis plus de 10 ans. On a toujours cherché le propriétaire. J'ai dit, mais cette maison était inhabitée ou quoi? Tout le monde, même à la mairie, c'est la maison hantée, la maison hantée, la maison hantée. Bon, elle est inhabitée, c'est une grande parcelle. Nous avons fait la marche depuis la Villeneuve-d'Ascq pour acheter un terrain. Mais heureusement, il s'est trouvé que ce terrain a des catiches. Ils ne peuvent plus le vendre. Nous avons trouvé un autre lieu à Villeneuve-d'Ascq pour acheter. Nous avons prié, on a fait tout ce que nous faisons ici. Ça n'a pas marché. Les habitants du quartier n'ont pas voulu qu'on achète. Et du coup, on s'est dit, tiens, continuons à prier pour ce quartier-là. Nous avons prié pendant des années. Et au mois de... En 2005, il y a un des membres de notre église, une famille, qui nous a apporté l'information selon laquelle ils étaient camarades, ils étaient amis avec la propriétaire de la fameuse maison. Et qu'elle leur a dit qu'elle était fatiguée, elle ne peut plus continuer à construire, mais elle veut la vendre. Bon, nous avons accepté et l'église a commencé à prier, moi personnellement avec la petite équipe, en commençant par mon épouse, pour que Dieu prépare les cœurs des membres de l'église afin qu'ils acceptent cette information-là. Parce que la peur, vous savez, quand ça rentre, c'est pas, hein, c'est la maison hantée, la rumeur fait beaucoup plus de dégâts parfois que la vérité. Et nous avons prié, nous avons jeûné, on a commencé à élargir l'équipe. Moi et mon épouse, ensuite les membres du comité, ensuite les différents responsables, tout le monde était sensibilisé et nous avons annoncé à l'église. Et l'église a jeûné et prié. Nous sommes allés visiter la maison à différents moments. Nous avons même fait la prière de Josué, ce que Josué a fait pour que les murs de Jéricho tombent. Pendant toute une nuit, nous avons fait 7 tours du quartier en voiture. Quand nous partons comme ça, c'est l'église qui part. Donc, nous ne sommes pas, ce n'est pas 2 ou 3 personnes, non. C'est toute l'église qui sort en prière. Nous avons fait le tour du quartier en priant. Et nous avons commencé à visiter la maison. Nous l'avons visitée la nuit, le jour, le matin et le soir. Nous avons été dans la cave, partout. Nous avons demandé au Seigneur, mais Seigneur, montre-nous. Seigneur, montre-nous. Et puis, jusqu'à présent, nous, on n'a rien vu qui nous effraie. Mais nous avons compris que ça peut être Dieu qui garde cette maison pour nous, pour en faire un lieu de témoignage. Ça peut être aussi qu'elle était vraiment hantée, mais depuis que nous prions, tout a été anéanti. Alors, nous ne savons pas. Et actuellement, nous avons vraiment gagné la faveur des habitants du quartier. Et tout à l'heure, dans ce que Jean-Luc disait en rapport avec Pâques, j'ai été saisi par cette pensée. Je pense que je la partagerai aussi avec notre église pour que nous nous interrogions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les habitants du quartier qui nous ont si bien accueillis à Pâques? Alors qu'il y en a qui disent, ah, nous sommes contents que vous soyez ici. On en avait marre du chien qui était là et qui aboyait tout le temps. Et il y en a même qui viennent, qui disent, bon, si ça devient réellement une église, moi je viendrai me marier là-bas. Si ça devient... Donc, nous bénissons le Seigneur du fait qu'il a exaucé les prières de l'église. Il nous a donné ces lieux-là. Financièrement, nous l'avons eu. Mais nous croyons aussi que spirituellement, les forteresses ont été renversées. Et nous sommes en train de discerner petit à petit que ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que nous soyons là-bas. Les problèmes, les besoins sont toujours là. Mais si l'Église ne joue pas son rôle, si l'Église n'entre pas en prière, il y a certaines choses que nous n'aurons pas. Il y a des choses que nous risquons de ne pas avoir. Mais il faut que nous comprenions petit à petit l'importance de la prière de l'Église. Et lorsque nous disons ici, nous en parlons à tous les membres. Il ne faut pas compter sur d'autres qui vont venir. Il faut que toi-même, tu te dises, oui, j'ai besoin d'être là. J'ai besoin d'être là. Parce que souvent, je me dis, oh bon, comme nous sommes 20, 19, selon là, c'est déjà l'église. Moi, je peux m'absenter. Mais nous avons besoin que tout le monde se sente concerné. Que moi, je me sente concerné. Que mon frère, que nous tous, nous nous sentions concernés. Et cela aussi, parce que la prière communautaire brise l'orgueil. Vous savez, quand je demande seul quelque chose à Dieu et qu'il me la donne, je vais témoigner, j'ai prié et Dieu a agi. Quelque part, j'ai une autosatisfaction. Quelque part, j'ai un peu cet orgueil-là que Dieu m'a exaucé. Mais quand nous sommes nombreux, c'est le « nous ». Et Dieu est glorifié par ce « nous-là ». Personne ne va en tirer gloire si ce n'est Dieu seul. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. J'ai besoin de prier le Seigneur un peu. Vous voulez? Oui.